Le journal de Vincent Jacquin.
Bonsoir, les premiers clients ont rempli leur panier cet après-midi au marché de Saint-Germain à Porrentruy. Le nouveau commerce a ouvert ses portes en toute simplicité, le temps que les producteurs, coopérateurs et consommateurs s'apprivoisent. Le tribunal de Moutier a tranché, les deux prévenus qui comparaissaient depuis hier ont bien été coupables d'escroquerie. Une arnaque assez sophistiquée de type wash-wash. Si vous ne savez pas ce que c'est, on vous l'explique dans un instant. Le Conseil des États veut en finir avec l'imposition de la valeur locative. Les sénateurs l'ont décidé aujourd'hui, mais ce n'est qu'un premier pas puisque le national devra se prononcer dans quelques mois. On laisse le mauvais temps derrière nous, c'est une page de soleil qui s'amorce, mais il faudra encore compter demain matin avec quelques brumes. Les premiers clients du marché Saint-Germain sont passés à la caisse cet après-midi. Le nouveau commerce qui a ouvert ses portes en face de l'église du même nom à Porrentruy est achalandé par une quarantaine de producteurs locaux. Ceux-ci sont pleinement intégrés dans le bon fonctionnement de ce marché participatif qui peut aussi compter sur une centaine de coopérateurs. Pas de grande inauguration pour le moment, mais une ouverture en toute simplicité. On écoute Danielle Siegfried, présidente de la coopérative Marché Saint-Germain.
On prend un peu nos marques aujourd'hui, on ouvre, on prend aussi l'habitude, on a regardé avec nos producteurs comment faire les livraisons, etc. Et puis une fois qu'on sera vraiment bien chez nous et puis que les consommateurs seront chez eux aussi, et puis que peut-être on ait plus de coopérateurs, plus de bénévoles, qu'on puisse s'étendre et puis après décider de faire ensemble une belle fête.
Est-ce qu'il ne fallait pas faire un peu plus de publicité pour attirer justement tout ce monde? Vous espérez miser sur le bouche à oreille?
Oh, je crois que, étant donné qu'il est 16h14 et que nous sommes déjà bien nombreux et nombreuses, je crois que ça marche déjà bien. C'est que le début finalement, c'est toute cette semaine, c'est toutes les semaines à venir. Et puis le bouche à oreille marche assez facilement aussi chez nous.
Danielle Siegfried qui répondait à Nancy Chapuis. On reste à Porrentruy où l'heure de la rentrée a sonné pour les conseillers de ville. Au menu de la séance de ce jeudi, le traitement de plusieurs postulats, émotions et les réponses à des questions écrites, notamment une concernant la piscine. Les bassins en plein air avaient fait beaucoup parler d'eux en 2020 suite à des mesures strictes pour endiguer un sentiment d'insécurité. Et cet été, d'autres moyens ont été mis en place, agents de sécurité privés ou encore vidéosurveillance. Mais il est difficile de tirer un bilan selon le maire Gabriel Voirol.
Les mesures, disons, ont permis en tout cas d'apporter des améliorations. Maintenant, est-ce que ça répond entièrement? On n'a pas encore le recul nécessaire, en particulier du fait que, je dirais, la météo n'a pas été telle qu'on l'espérait et qui n'a pas permis de rassemblement de foule relativement important. Par contre, on a mis en place des mesures liées à la surveillance, à la comptabilisation, à des tarifs qui soient différenciés, un renforcement aussi de la sécurité, donc toute une palette de mesures qui s'inscrivent justement dans la perspective d'essayer de ne pas revivre les événements de 2020.
La piscine étant rénovée, le bâtiment qui abrite entre autres les vestiaires mérite un assainissement. L'investissement a été repoussé à 2024, mais une question se pose désormais. La municipalité doit-elle entreprendre les travaux ou alors transférer le bâtiment de la piscine au SIDP qui gère déjà l'ensemble de l'espace loisir ? De nombreuses villes réfléchissent au problème de la pollution lumineuse et Delémont n'échappe pas à la règle. La commune organise un séminaire en ligne sur le sujet ce jeudi à 19h. Ce sera l'occasion de faire le point sur le processus collaboratif engagé par Delémont, des données qui seront utilisées pour élaborer le nouveau règlement de la ville sur l'éclairage public. Ils sont reconnus coupables d'escroquerie. Les deux ressortissants camerounais qui comparaissaient depuis hier devant le tribunal de Moutier ont bien arnaqué un commerçant de la région. Une arnaque de type wash-wash, c'est-à-dire une prétendue multiplication de billets de banque par des procédés chimiques. Et selon la justice, la victime ne peut pas s'en vouloir. Olivier Zano.
C'est bien ça le principal enseignement de cette affaire. On aurait pu penser que la victime, un commerçant de la région, aurait dû sentir l'arnaque, une forme de co-responsabilité en quelque sorte. Eh bien non, selon la juge unique Maïli Rufnart, le lésé ne pouvait simplement rien faire. Les mailles de cette arnaque, un tissu de mensonges et de manipulations très fines, étaient beaucoup trop serrées. On le rappelle, l'un des prévenus avait approché la victime pour lui faire croire qu'elle était intéressée à racheter une partie de son affaire. Un cadeau du ciel à en croire ce commerçant qui cherchait justement un repreneur. Et puis au fil des semaines, la manipulation a opéré. Plusieurs intermédiaires se sont succédés pour présenter un procédé de paiement basé sur une coloration de billets de banque soi-disant légale, avec démonstration à l'appui. La victime a avancé environ 60 000 francs. On a encore essayé de lui extorquer de l'argent pour l'achat de produits chimiques censés réparer un problème survenu pendant les opérations. Et c'est là qu'elle a alerté la police. Le tribunal n'a pas été tendre avec les auteurs, des auteurs coutumiers de ce genre d'arnaque et qui n'ont cessé de nier des faits accablants. L'un d'eux écope de 16 mois de prison ferme pour escroquerie et blanchiment d'argent, avec en prime une expulsion du territoire suisse pour 5 ans. Le second s'en tire avec 10 mois de prison assorti d'un sursis de 2 ans.
Les exportations horlogères du mois d'août retrouvent peu à peu leur niveau d'avant la crise. La fédération du secteur a partagé ce matin ses nouvelles statistiques mensuelles. Les chiffres comparent le mois d'août 2021 avec celui de 2019. Et si la valeur des exportations se porte plutôt bien, le nombre de pièces vendues à l'étranger a bien baissé. Les premiers pays acheteurs restent en bonne position, mais certains pays arabes sont de plus en plus demandeurs. Le détail avec Valentine Courvaya.
Les exportations de montres suisses ont totalisé 1,5 milliard de francs durant le mois d'août. C'est presque autant qu'en août 2019, avant la crise sanitaire. Mais le nombre de montres vendues a diminué de 29,7% sur ces deux dernières années. Seules les montres de luxe ont connu une augmentation des ventes. A l'inverse, celles à petit prix ont même connu un recul de 45%. Du côté des acheteurs, la Chine et les États-Unis restent les plus gros clients avec près de 30% du marché. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite ont gagné en importance ces deux dernières années. A l'inverse, d'autres débouchés comme la France, Hong Kong ou encore la Corée du Sud se sont affaiblis. En résumé, si la valeur des exportations se rapproche de celle de 2019, le nombre de montres vendues reste encore bien plus bas qu'il y a deux ans, sauf pour les montres de luxe.
Malgré ces chiffres, certains groupes horlogers ont vécu des reculs ces dernières semaines. C'est le cas notamment de Swatch qui vient de quitter le SMI, l'indice boursier qui regroupe les 20 plus grosses entreprises suisses cotées en bourse. Swatch rejoint l'indice boursier d'en dessous. Les cantons du Jura et de Berne mettent au concours une nouvelle bourse destinée au monde de la scène, de l'argent qui doit offrir aux artistes une période de réflexion sans la pression qui accompagne normalement une production. Ces bourses représentent 10 000 francs pour les personnes seules, 20 000 pour les collectifs. Pour y prétendre, il faut être résident dans le Jura bernois ou bien être majeur et prouver qu'on est un professionnel des arts de la scène. Plus de détails sur rfj.ch. Le Conseil des États a voté la suppression de la valeur locative. Ce n'est qu'un premier pas, puisque le Conseil national devra se prononcer dans quelques mois. Rien n'indique pour le moment que la réforme ira à son terme. La majorité alémanique du Conseil des États a pourtant décidé de conserver la valeur locative pour les résidences secondaires. Les explications à Berne de Serge Hubin.
Deux arguments forts développés par la majorité qui veut abolir la valeur locative et en parallèle supprimer les déductions fiscales pour les travaux d'entretien et la déduction des intérêts hypothécaires. Les personnes qui arrivent à la retraite et ont payé leur bien immobilier sont frappées d'un impôt sans fondement et les Suisses sont trop endettés. Le système de la déduction fiscale des intérêts hypothécaires est un système qui subventionne l'endettement. La majorité bourgeoise alémanique du Conseil des États s'est heurtée à la gauche qui estime que la réforme proposée est déséquilibrée et qu'elle n'a aucune chance si elle doit aller devant le peuple, le socialiste Christian Levra.
Je partage l'analyse qui veut qu'il s'agisse d'un bricolage législatif à force de pression des différents lobbies qui sont impliqués ici. Je considère que le projet n'a absolument aucune chance politique et qu'il serait sain de l'interrompre. 21 cantons se sont opposés à cette modification. Pour au moins 42 d'entre vous, vous êtes confrontés à une situation dans laquelle votre canton que vous représentez ici vous demande de ne pas entrer en matière sur ce projet.
Les conseillers aux États des cantons romands ont plutôt bien écouté leur gouvernement. 9 élus romands ont rejeté la réforme, 2 se sont abstenus. Ce sont les libéraux radicaux Joanna Gapani et Olivier Français. Et un seul sénateur roman a soutenu le principe de la suppression de la valeur locative. Le conseiller aux États libéral radical neuchâtois Philippe Bauer.
L'abolition de la valeur locative doit encore faire l'objet de débats au Conseil national. Le certificat Covid pourrait bien devenir obligatoire au Palais fédéral à Berne à partir du 2 octobre. La commission des institutions politiques du Conseil des États a accepté de modifier la loi sur le Parlement. Son homologue du Conseil national avait pour sa part donné son feu vert la semaine dernière. Le Parlement se prononcera la semaine prochaine. En Russie, les élections législatives de ce week-end se sont déroulées sous une surveillance allégée. Le conseiller national socialiste jurassien Pierre-Alain Fridé faisait partie des observateurs. Il était à la tête d'une délégation du Conseil de l'Europe. Mais son travail sur place a rencontré quelques difficultés. À cause de la pandémie de coronavirus, la Russie a demandé à ce que la délégation de surveillance soit fortement réduite. Ce sont finalement 5 parlementaires qui se sont rendus sur place, alors qu'ils auraient pu être plusieurs centaines. Les observateurs ont finalement procédé à une évaluation de la situation, faute d'avoir les moyens de réaliser une véritable observation du scrutin. Pierre-Alain Fridé.
On était juste présent donc dans peu de bureaux avec quelques parlementaires et on a plutôt voulu sentir l'ambiance générale, voir s'il y avait des tensions, s'il y avait des choses manifestement qui ne jouaient pas. Et ce qu'on a vu était, bon, dans la région de Moscou et à Moscou même, plutôt effectivement très calme. Mais en aucune manière, on ne peut maintenant, en sortant de là, exprimer une opinion claire sur la validité ou non de ces élections. Il faudrait des moyens beaucoup plus importants, bien entendu.
C'est aujourd'hui la journée mondiale de l'Alzheimer. À cette occasion, nous sommes partis à la rencontre de Marie Balmer. Cette auxiliaire de vie habite au bois et durant le confinement, elle a mis sa vie entre parenthèses pour vivre à Malray avec une personne atteinte de cette maladie. C'est donc chez cette dame que Marie Balmer a passé plus d'une année. Au téléphone d'Alexandre Michler, elle nous explique quelles ont été les difficultés rencontrées durant cette période.
Ce qui est difficile, c'est justement de ne pas avoir un contact de parler, puisqu'elle parlait très très peu. On est quand même désociabilisé. Et puis, ben voilà, il faut quand même mettre en place des choses pour la toilette. Parfois, il y avait des jours où elle ne comprenait pas qu'il fallait passer à la douche, qu'elle n'avait pas envie. Donc, il faut motiver. Ce qu'il faut, c'est avoir beaucoup, beaucoup de patience, parce qu'on répète souvent la même chose. Il faut avoir aussi beaucoup d'amour, être dans la tendresse, dans la douceur, ne pas crier ou ne pas parler trop fort, ça les angoisse. Pour moi, c'était quand même une situation assez facile par rapport à certaines personnes qui sont proches de malades, où les malades sont plus agressifs, parce qu'en fait, le problème du proche du malade, c'est que le proche prend la place, par exemple, si c'est une dame, elle prend la place du mari qui a toujours tout guidé dans la maison et c'est madame qui commence de guider et le malade le prend en grippe. Tandis que moi, comme j'étais une personne de l'extérieur, c'était beaucoup plus facile que si c'était ses enfants ou une personne proche.
Il y a noté que Marie Balmer a reçu le prix coup de cœur de la part des sections d'Alzheimer, Berne et Neuchâtel pour son action. La fondation O2 doit se trouver une nouvelle tête. Chloé Sass, l'actuelle directrice du centre, quitte ses fonctions. Elle va rejoindre la fondation Promotion Santé Suisse d'ici début 2022, selon un communiqué transmis aujourd'hui. Le poste de directeur ou directrice sera mis au concours ces prochaines semaines. L'intérim sera assuré par la directrice adjointe Stéphanie Mertena-Eicher.
RFJ, il est 18h14.
Sport. Le HC Ajoie veut enchaîner dans le championnat de National League de hockey sur glace. Les jaunes et noirs se rendent à Berne ce soir à 19h45. Fort de leur succès de samedi face à Ambry, ils entendent récolter leur deuxième victoire de la saison. Mais le HCA sera toujours privé de Jérôme Leduc et Guillaume Asselin. Il fera donc le déplacement avec deux étrangers. Berne-Ajoie, c'est un match à vivre ce soir en direct sur RFJ dès 19h30. Et c'est en compagnie de notre consultant Kevin Rieser. La FIFA tape sur les doigts de la Fédération hongroise de football. Celle-ci écope d'un match à huis clos et d'une amende à cause du comportement raciste de certains de ses supporters. Au début du mois, des fans hongrois avaient entre autres imité des singes pour se moquer du milieu de terrain anglais Jude Bellingham et l'attaquant Raheem Sterling. L'amende se monte à 200 000 francs suisses. C'est la fin de cette édition, je vous souhaite une très belle soirée.